BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Un grand bonjour à toutes et à tous, et le plus important, comme De quoi je me mêle arrive à la fin de la semaine, un excellent week-end. Merci d'être avec nous, que vous soyez en audio, en vidéo, à la télé, à la radio, en replay, sur votre PC, sur votre mobile. Merci d'être là, vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à écouter De quoi je me mêle en podcast, merci pour ça. Et puis si vous êtes un fan de tech, vous avez De quoi je me mêle, mais j'ai aussi le plaisir de présenter tous les soirs une émission qui s'appelle Tech & Co sur BFM Business, peut-être pour vous l'occasion de la découvrir si ce n'est pas le cas. BFM Business qui est en radio et en télé, de la même manière que De quoi je me mêle, vous pouvez nous retrouver aussi en podcast si vous êtes un féru d'actu. Avec au sommaire de ce De quoi je me mêle, tout à l'heure on va plonger dans l'arrêt de la connexion cuivre. Vous savez que le téléphone en France, depuis toujours, fonctionne avec un fil de cuivre. Et petit à petit, la fibre est en train de remplacer tout ça. Qu'est-ce que ça va changer concrètement? Vous allez voir, c'est pas anodin. On en parlera avec Lionel Paris, qui a étudié le sujet, qui nous expliquera les avantages et les inconvénients, évidemment, de cet arrêt. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez à tout moment réagir avec le hashtag DQJMM. Voilà, tout est dit. Merci d'être là encore une fois. Et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Mais pour débuter, place à l'actu de cette semaine avec Raphaël Grably qui est avec nous. Salut Raph.
Salut François.
De la rédaction de Tech & Co. Raphaël, ravi de passer cette petite demi-heure avec toi pour brosser l'actu de cette semaine. Oui. Plutôt sympathique, avec pas mal de choses. Tiens, si vous avez un compte Gmail et que vous ne vous en servez pas trop, restez avec nous parce que Google a décidé de faire un truc assez étonnant. On en parle dans quelques minutes. Mais pour débuter, imaginez... Vous recevez chez vous un grand colis avec une télé. Et cette télé, en fait, Raphaël, elle nous aurait coûté combien ?
Ben zéro.
C'est-à-dire zéro. Zéro euro !
Exactement, la télé est gratuite. Alors, souvent, c'est des arnaques. Hein. Tu sais, tu as ta télé ou ton iPhone à 1 euro. Tu sais, t'as tout, sur les réseaux sociaux, tu as quand même pas mal d'arnaques comme ça.
Combien de fois j'ai essayé d'avoir un iPhone à 1 euro et il n'est jamais arrivé ?
Ou alors, tu en as vraiment 1 euro chez les opérateurs, mais en fait, derrière, tu payes aussi un petit peu quand même.
Il te coûte un petit peu plus cher.
Exactement. Non, là, c'est une télé en fait, qui est vraiment gratuite. Il y a 500 000 exemplaires qui ont été mis, j'allais dire en vente, mais du coup, presque en don. Et pourtant, c'est extrêmement sérieux. Alors, c'est une télé 55 pouces 4K. Donc, c'est...
Bon, ça va, oui, c'est pas une télé en noir et blanc.
Quand on a pu le dire, c'est pas de la merde, quoi.
Ouais,
voilà.
J'ai pas osé.
Exactement. Et c'est une boîte qui s'appelle Teli. En fait, ça appartient au cofondateur de Pluto TV. Pluto TV, c'est un américain
bien sûr.
Du streaming. Et en fait,
qui existe en France d'ailleurs. Peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est une appli que vous téléchargez sur votre télé ou sur votre PC qui vous permet d'avoir de la VOD, c'est-à-dire de la SVOD gratuite avec de la pub.
Exactement. Et donc, en fait, justement, tu viens de donner évidemment l'indice, le pourquoi du comment. C'est la pub, évidemment. Quand c'est gratuit, c'est qu'on est le produit. Et donc, la télé qui sera gratuite, si on choisit de l'avoir... En échange, on devra accepter d'avoir de la pub diffusée dans son salon ou dans sa chambre en permanence. Alors, on n'a pas le modèle là sur l'écran à l'arrière, mais en gros, pour schématiser, c'est une télé en deux parties, presque trois parties d'ailleurs. C'est-à-dire que tu as l'écran principal.
C'est ça le problème.
Oui, c'est ça.
Elle est gratuite, mais si vous voulez, elle arrive en trois parties. L'écran, il faut le monter.
Non, tu as un vrai écran entier. De 55
pouces. De télé normale.
En plus, la seconde partie, c'est une barre de son qui est intégrée. Donc, tu as la télé.
Carrément.
Et tu as une barre de son. Voilà.
Gratuite aussi, monsieur.
Gratuite aussi.
Vous êtes sûr?
Et par contre, en dessous, tu as une sorte de long écran là, en dessous, qui s'affiche, enfin, qui est placé en dessous de la télé, en dessous de la barre de son. Et là, tu as de la pub qui s'affiche en permanence. C'est un peu le modèle, c'est la logique, hein, finalement, pour Pluto TV. On met de la pub sur le contenu, maintenant, on met de la pub aussi sur le matos, sur la télé. Et donc, ça a été mis en vente, là, aux États-Unis uniquement. Hein. Malheureusement, ce n'est pas encore disponible pour la France. Alors, après, la question, c'est est-ce qu'on a envie de ça? Est-ce qu'on a envie d'une télévision qui affiche de la pub en permanence chez soi, sachant... que évidemment l'écran du bas, quand on l'achète, bon, on se dit s'il y a une pub qui est diffusée, pourquoi pas, mais on ne sait pas comment ce sera utilisé par la suite. Peut-être que la pub sera de plus en plus invasive, sachant que si finalement on décide de ne pas accepter la diffusion de publicité sur la télé, il faut payer $500. Donc en fait, finalement, on a un peu le prix du matériel, c'est $500. Donc
en fait, pub en fait subventionne la télé à hauteur de $500.
Exactement. Donc finalement, c'est une idée du matos, c'est-à-dire qu'on doit avoir un modèle parce qu'on n'a pas tout à fait les infos sur qui est le sous-traitant, parce qu'évidemment, c'est fabriqué par un sous-traitant. Donc, ça doit être une télé quand même assez milieu de gamme. Mais enfin, aujourd'hui, l'avantage, c'est que les télés, on est quand même sur un marché où même une télé milieu de gamme, ça fait largement le job.
Mais une télé, tu vois, une deuxième télé pour une chambre, un bureau.
Exactement.
Pourquoi pas ?
Après, c'est juste que la pub dans la chambre toute la nuit.
Ah, tu peux pas éteindre le
bah,
truc,
si tu veux l'éteindre, non, c'est...
Bah, il faut débrancher la couille, il faut débrancher la prise.
Donc, c'est... alors, c'est un nouveau mode... Enfin, c'est un nouveau
modèle. Je crois qu'il y a des petits malins qui vont mettre, par exemple, un carton sur le petit écran, justement, pour pas voir la pub.
Oui,
ou
alors,
comme ça.
Pour tout te dire, moi, la question que je me pose plutôt, c'est pour le son. Est-ce que tu vas pas avoir demain des pubs avec du son, voire des pubs carrément audio, façon pub radio,
audio,
même
ouais.
Si tu regardes pas. C'est-à-dire qu'en fait, tu acceptes d'avoir une intrusion permanente chez toi. Sachant qu'il y a des autres options, il y a une caméra aussi. Il y a une caméra aussi qui permet de passer des appels, mais aussi de détecter la présence pour optimiser les pubs, etc.
Ah.
Donc, disons que c'est un nouveau modèle. C'est bon, à titre personnel, moi,
je crois que la caméra, tu peux la masquer.
Oui,
non,
alors, exactement.
Il y a un truc quand même. T'es pas obligé.
T'as un petit cache physique que tu peux mettre sur la caméra.
Ouais.
Donc ça, c'est l'engagement entre guillemets pour la vie privée. Après, la question que je me pose, c'est est-ce que ça va être une expérience comme ça, one shot, et puis ce ne sera pas reconduit ? Est-ce que ça va fonctionner ? Et si ça fonctionne, on peut se dire que c'est peut-être aussi le début d'une forme de business model où finalement, il y a du gratuit qui devient payant, c'est-à-dire que les réseaux sociaux qui étaient gratuits deviennent peu à peu payants avec des options supplémentaires. Ah. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi le mouvement inverse des services payants qui incluent la pub pour baisser le prix façon Netflix. Forcément, façon plutôt TV où là c'est entièrement gratuit, et donc carrément sur le matériel, sachant qu'en par exemple sur des smartphones en Chine, il y a déjà des smartphones dont le prix a pu être baissé parce qu'il y a de la pub qui est diffusée aussi.
Rappelle-toi, Amazon a fait ça, je ne sais pas s'ils le font toujours d'ailleurs, tu sais, ils sortaient une petite tablette et tu avais deux tablettes en fait, avec deux configurations différentes, une que tu payais plein pot, il n'y avait pas de pub,
voilà.
Et une autre où tu payes, je crois, $50 de moins ou $100 de moins. Et tu avais, alors pas tout le temps, mais quand elle était éteinte, enfin quand elle était, tu sais, l'écran d'accueil, c'était de la pub.
C'était de la pub.
Et dès que tu l'ouvrais, en fait, bah là, tu te retrouvais avec ton interface normale. Et donc, pour ce prix-là, enfin en tout cas pour cet affichage de pub, tu payais un petit peu moins cher.
Mais bon, après, j'ai envie de dire, de toute façon, le bon choix, ce sera le choix du consommateur.
Bien sûr, mais tu sais, moi, je suis pas tout à fait contre ce concept-là.
Disons que moi, ça me plairait pas, mais après, honnêtement,
pour des gens qui n'ont pas envie, tu vois, qui n'ont pas envie de dépenser beaucoup d'argent pour une télé et qui regardent la télé de manière, on va dire, sporadique pour des trucs comme ça, il faut voir après la fréquence d'affichage de la télé.
Le côté intrusif sur le son, etc., c'est ça qui est important.
Puis je pense qu'ils doivent aussi collecter pas mal de données. Je pense
évidemment
que tu dois être obligé de créer un compte.
Oui, ça, je pense que tu dois créer le compte. La pub, j'imagine qu'elle doit être plus ou moins ciblée aussi en fonction de ce que tu regardes, de ce que tu fais. Après, j'ai envie de te dire aussi, il y a des télés très chères. Qui ont de la pub aussi.
Oui, masqués.
Mais où là, t'as le choix, ils te disent pas.
Ouais,
et quand t'allumes la télé, t'as des bandeaux publicitaires.
Tout à fait.
Moi, je t'avoue qu'il y a certaines marques, ça m'a un petit peu gavé, sachant que tu as une télé qui est vendue plein pot.
Mais on va les citer, c'est Samsung, hein, mais il y en a d'autres aussi. Hein.
Alors, moi, j'ai l'expérience avec Samsung. Là, je t'avoue que c'est pour ça que j'ai changé. Je suis passé chez LG, très, très sincèrement. Je ne crois pas avoir vu de pub chez LG, mais je t'avoue que j'ai pas eu le temps de regarder. Je viens de les installer. Mais je t'avoue que ça m'a saoulé.
Non, mais
parce
c'est clair.
C'est pas très clair au début. Et finalement, tu allumes ta télé et tu as de la pub sur le bandeau. Bah, moi, je trouve que c'est pas
avec
très
le fameux cas Rakuten, je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire-là. C'est-à-dire que Rakuten, en fait, donne de l'argent à tous les constructeurs de télé pour avoir leur appli qui apparaît vraiment en plein écran quoi.
Exactement.
Et alors que bon, j'ai rien contre Rakuten qui est un service de VOD.
Non, mais c'est intrusif.
Mais c'est intrusif.
Et
tu peux pas le désinstaller.
Non.
Tu peux pas le désinstaller.
Non,
c'est ça qui est, ou alors il faut bidouiller.
Et sachant qu'en plus, il se trouve que parfois, quand je manipulais mal la télécommande sans faire exprès, tu avais le truc Rakuten qui se lançait tout de suite. Enfin bref, je trouve que c'est une nouvelle expérience. Alors honnêtement, j'espère que ça leur apporte beaucoup d'argent. Parce que franchement, moi, je trouve que c'est une nouvelle expérience. Après, est-ce que je suis représentatif ? J'imagine que s'ils ont fait ça, c'est qu'ils ont estimé que 95% des gens s'en fichaient et que moi, je dois faire partie des 100%.
Ouais, mais bon.
Et que le fait que j'achète chez la concurrence, pour eux,
ce qui est inquiétant, c'est que c'est la première étape, parce qu'il y en aura une deuxième, encore avec de la pub plus intrusive, si tu payes ta télé, quoi. Donc, bon.
Voilà.
On s'éloigne un petit peu du sujet.
En fait, non, mais ce qu'il faut, c'est de la clarté.
C'est ça.
C'est simplement
c'est
de la clarté.
En effet.
Est-ce que ce à quoi on va être exposé, est-ce que si on paye, On a des... En fait, le problème, c'est de ne plus être assuré, de ne plus avoir de pub si tu payes.
En effet, voilà. En effet. Je serais curieux de savoir quels sont les montants de ces contrats entre les entre
des boîtes. C'est une question que je me pose parce que vu le côté désagréable que c'est sur l'interface, j'espère pour eux que c'est important.
Ça doit être costaud. Ouais. Ça me fait penser un peu aussi aux constructeurs de PC, tu sais, qui rajoutent des applis, des programmes sur ton PC dès que tu l'allumes, les antivirus et tout, toute la pagaille.
Et après, on retombe sur les applis sur smartphone aussi, avec tous les bloatware qu'on a.
Exactement. Et après la télé, Raphaël, autre sujet un peu plus sérieux quand même, c'est l'intelligence artificielle. On l'évoque souvent dans tous les médias, que ce soit sur le site de Tech & Co, dans De Quoi Je Me Mail, avec Sam Altman. Je vous rappelle que Sam Altman, c'est le cofondateur d'OpenAI, qui est en fait la boîte qui a créé ChatGPT, avec derrière Microsoft, etc. Et Sam Altman a été entendu par le Congrès américain sur des questions d'intelligence artificielle et de vie privée de ces nouvelles technologies, parce que bien sûr, cette puissance de l'IA questionne beaucoup de monde, et même, on va dire, dans les hautes sphères de la présidence américaine.
C'est un fil rouge depuis quelques mois. On a régulièrement comme ça des spécialistes de l'IA, voire des patrons de boîtes qui sont dans l'IA, qui s'interrogent comme ça publiquement. Alors,
c'était le cas d'ailleurs il y a quelques semaines où tous les patrons de l'IA...
Il y avait le fameux moratoire.
Bien sûr,
il y
avait eu Kamala Harris les avait reçus,
exactement.
Etc.
Alors, j'ai envie de dire, c'est aussi une façon de mettre en avant, c'est-à-dire le fait de s'inquiéter d'une technologie, c'est aussi dire qu'elle va être très importante, et de dire on est en train de révolutionner le monde.
Oui.
C'est une façon de faire parler de leur technologie en
tout
disant, oula, attention...
Et en la dramatisant un petit peu.
Exactement, notre techno, elle est tellement forte que...
Ça va révolutionner le monde.
Ça va tout révolutionner, parce qu'à chaque fois qu'on parle du fait qu'ils s'inquiètent, on dit aussi...
On parle
du fait que ça va révolutionner le monde, ce qui est possible, voire de plus en plus probable, mais enfin pas sûr à 100%, on a encore quand même des interrogations sur l'usage concret, même si je pense qu'effectivement ça va changer beaucoup de choses. Et la position de Sam Altman, elle est assez claire, c'est de dire régulez-nous. En gros, il faut nous réguler. Il dit ça évidemment aux élus américains, sachant qu'en Europe aussi, il y a un projet de régulation de l'IA qui est d'ailleurs assez avancé, qui va devoir d'ailleurs suivre un peu les évolutions pour ne pas être caduc au bout de 6 mois. Et le fait de dire régulez-nous, c'est encore une fois le fait de dire, ça revient à dire ce qu'on fait est extrêmement important, mais aussi à juste titre, mais peut-être aussi parce qu'eux-mêmes ne savent peut-être pas totalement comment s'autoréguler. Et c'est une façon aussi de, de refiler un peu la patate chaude de la responsabilité de l'IA.
C'est ça.
Parce que le fait
maintenant,
de dire...
Maintenant, les pouvoirs régulent tout ça.
Exactement.
C'est plus notre problème, vous vous débrouillez.
Exactement. Le fait de dire régulez-nous, une fois que s'il y a des problèmes, ils pourront dire, attendez, soit vous ne nous avez pas régulés, soit vos règles de régulation étaient mauvaises, on a respecté les règles, désolé.
Et on vous avait averti.
Et on vous avait averti.
Rappelez-vous.
Et s'il y a un problème, c'est que vos règles étaient mauvaises, nous on a fait tout ce qui était légal. Et donc, c'est marrant, c'est un discours qu'avait eu aussi Mark Zuckerberg, quand on parlait beaucoup notamment de la désinformation sur Facebook. Zuckerberg a dit, attendez, régulez-nous, il n'y a pas de problème. Bon, sauf qu'on voit aussi quand il y a de la régulation. Après, pour répondre à la régulation, sur les éléments qui vraiment, entre guillemets, les emmerdent un peu, c'est-à-dire quand il faut dire combien il y a de modérateurs, etc., donner des détails sur le fonctionnement des algorithmes de recommandation. Et là, la régulation régulée en termes de règles théoriques, pourquoi pas. Quand on demandera à OpenAI, qui contrairement à son nom n'est plus du tout open source, de filer son algorithme de recommandation pour des audits à la Commission européenne ou aux États-Unis, ce sera peut-être un peu différent.
Un peu différent.
Donc, le discours, il ne faut pas se tromper. Le discours 1, on est très préoccupé. C'est aussi pour dire ce qu'on fait est très très important. Et deux, le discours de dire régulez-nous, le fait de dire ça, c'est aussi se défausser potentiellement en cas de problème et dire finalement, nous, on est entre guillemets les faiseurs. Et après, c'est au régulateur de faire en sorte que ça se passe bien. Et si on nous autorise à faire des choses, ça veut dire qu'ils seront d'accord pour qu'on fasse ça. Et derrière, ils ne pourront pas nous dire « vous avez eu tort de faire ça ».
Il a dit des trucs intéressants durant cette commission, Sam Altman. Il a dit « l'intelligence artificielle a le potentiel d'améliorer à peu près tous les aspects de nos vies, mais elle crée aussi des risques sérieux ». Donc, il rejoint un peu ce que disait Geoffrey Hinton, le pape de l'intelligence artificielle chez Google, qui a raconté plein de trucs pas très sympas sur l'IA après être parti de chez Google. C'est intéressant parce que tous ces gens-là vont dans la même direction.
Oui, ils avertissent, mais parce que je pense qu'eux-mêmes... Enfin, on voit bien, quand on met en place des outils comme ChatGPT, les problèmes que peuvent avoir certains utilisateurs avec des fausses informations. On voit bien tout de suite les limites. Et j'ai envie de dire, ils savent que leurs outils, la prochaine étape quand même, c'est de les mettre à disposition de toujours plus de monde. Et donc, à mon avis, ils savent très bien qu'il va y avoir des problèmes, mais c'est une évidence. C'est l'impossible. Enfin, l'inverse n'est pas possible. Il y aura forcément des problèmes. Et donc, le fait de dire bon, ce qu'on fait, c'est bien, mais on vous prévient, il risque d'y avoir des problèmes, et en même temps, régulez-nous. Bon, c'est une façon quand même de parer des futures critiques et de dire, bah, je suis désolé, on a développé quelque chose. On a été honnête sur les risques, on a été très honnête sur les risques, parce que on a aussi comparé, par exemple, Facebook ou les réseaux sociaux, l'addiction à l'industrie du tabac des années 90, qui disait non, on n'est pas addictif, c'est pas dangereux, etc. Eux, je pense qu'ils veulent dire, on a été transparent, on a été
dès
honnête.
Dès le début,
on vous dit, il y a des risques, il faut peut-être réguler, maintenant, entre guillemets, démerdez-vous avec ça, sachant que c'est un débat à la fois technique, juridique, philosophique. Enfin, il y a tellement de débats que
sociétal
que c'est un débat qui va être impossible à mener. Et en tout cas, c'est un débat qui va se faire forcément en fait au fil de l'eau, parce que les usages d'aujourd'hui n'ont probablement rien à voir avec les usages de dans 2 ans. Quand on voit déjà les écarts de performance des intelligences artificielles il y a 1 an par rapport à maintenant, on s'imagine que dans 2 ans, ça va être stratosphérique. Et donc, je pense que il va falloir surtout, à mon avis, y avoir un travail, une coordination régulière sur les progrès de l'IA dans les prochaines années entre les grandes boîtes et les autorités et les gouvernements, et surtout de la transparence sur les algorithmes.
Alors, Sam Altman dit aussi un truc intéressant. Il dit que finalement, les gens discerneront toujours le contenu fait par IA et le contenu humain. Mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il dit à l'époque, il y a eu le même débat avec Photoshop, mais au fur et à mesure, les gens ont pu discerner ce qui était créé par Photoshop. C'est pas vrai. Il y a plein de trucs qui sont faits par Photoshop et tu ne le vois pas, parce que c'est super bien fait, etc. Évidemment. Et Photoshop, à côté, c'est de la gnognotte par rapport à l'IA.
En fait, le problème, c'est que...
C'est un argument qui ne tient pas.
Non, moi, je suis d'accord avec toi, je trouve que ça ne tient pas du tout. Déjà, parce que, comme tu dis, sur Photoshop, il y a plein de trucs qui sont faits sur Photoshop et on ne le voit pas, tout simplement.
Mais oui. Et c'est fait exprès, d'ailleurs, qu'on le voit.
Et d'ailleurs, au passage, accessoirement dans Photoshop, maintenant, il y a des outils d'intelligence artificielle qui font en sorte que ça ne se voit pas déjà depuis des années. Dans la suite logicielle Adobe, il y a beaucoup d'intelligence artificielle. Et puis ensuite, il y a une grosse différence avec Photoshop. C'est que Photoshop, il faut une compétence. D'ailleurs, pour que ça ne se voit pas, il faut une grosse compétence.
Oui, bien sûr.
Il y a très peu de gens.
C'est un vrai métier.
Il y a 0,01% des internautes qui sont capables de faire une retouche photo qui ne se voit pas sur Photoshop. Avec un Midjourney, c'est 100% des gens, ou 90% des gens, pour ceux qui... Il suffit d'apprendre un peu comment parler à la machine, et après c'est bon.
On y arrive.
Donc non, en fait, c'est l'industrialisation qui pose problème, c'est-à-dire c'est la masse qui pose problème. Et le fait d'avoir une photo retouchée de temps en temps dans un magazine ou sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose. Mais le fait d'avoir sur Twitter en permanence des milliers de photos qui n'existent pas, ça n'a rien à voir. Ça fait qu'on va douter d'ailleurs des photos qui existent. Et donc, c'est le côté industriel et massif qui change tout. Et là-dessus, je suis d'accord avec toi et je ne suis pas du tout d'accord avec Sam Altman. C'est le prolongement de Photoshop. C'est vrai, le concept est quelque part un peu le même, mais c'est le côté industriel.
Mais c'est Photoshop puissance 1000, quoi, c'est ça le problème. Dans l'actu aussi, attention, on le disait, si vous avez un compte Google, il faut l'utiliser. Parce que si vous ne l'utilisez pas, et quand on parle de compte Google, c'est Gmail, c'est toute la suite Google.
C'est YouTube.
Aussi, explique-nous
Google Photo.
Ce que Google a communiqué il y a quelques heures concernant ces vieux comptes.
En fait, ils ont expliqué que tous les comptes qui étaient inactifs verraient leur contenu supprimé. Alors, il y avait déjà d'ailleurs une procédure comme ça sur Gmail, si je ne dis pas de bêtises, c'était 2 ou 3 ans. Là aussi, c'est pareil, 2 ou 3 ans. Sachant qu'un compte inactif, c'est vraiment un compte où on ne s'est jamais connecté. Le simple fait de se connecter...
Oui, même sans interagir.
Simplement pour regarder...
Tu te logues.
On se logue et on regarde, par exemple, juste une vidéo YouTube, c'est bon. Donc, l'action à faire par l'internaute, elle n'est pas énorme. Et d'ailleurs, évidemment, il y aura des messages, des mails d'avertissement pour prévenir. Mais en fait, le problème, je trouve, ce n'est pas forcément du côté des créateurs ou des utilisateurs qui ont leur contenu. Je trouve que ce qui est un peu triste, c'est une forme de disparition d'une certaine mémoire de l'Internet. C'est-à-dire que justement, ce qui change tout pour moi, c'est YouTube. Alors, il y a Google Photos, c'est un peu embêtant parce que il y a des photos qui vont disparaître, mais bon, si personne ne les utilisait quelque part, c'était des photos qui étaient d'ailleurs en général privées. Alors, je rappelle quand même au passage, tout ça, c'est la raison officielle. Bon, il y a des raisons probablement économiques, parce qu'en termes de stockage...
T'imagines un peu
ça coûte cher.
Le stockage de toutes ces données que personne n'utilise pour Google. Voilà, et même en termes d'environnement.
Oui, et en termes d'environnement, je suis d'accord. Et alors, ce que dit Google, ce n'est pas tellement ça, c'est surtout le côté sécurité.
Mais eux, ils jouent le côté sécurité.
Ils ne vont pas dire, ça nous coûte trop cher de gérer ça, on en a marre, au revoir. Non, ils disent c'est le côté sécurité, mais qu'il y a un argument qui s'entend aussi parfaitement. parce qu'un compte qui n'est pas utilisé depuis longtemps, bah, c'est un compte qui ne va pas changer son mot de passe. Si le mot de passe a été compromis, bah, si personne ne fait rien, ce sera le mot de passe compromis qui va rester pendant des années et qui pourrait être piraté.
Et donc, Google, ce dont craint Google, c'est que justement, si par exemple vous avez un vieux compte dont vous ne vous servez plus, quelqu'un usurpe votre identité et va se servir de ce compte en se faisant passer pour vous.
Exactement.
Et c'est ça qui est embêtant.
Exactement. Donc l'argument de sécurité, il est parfaitement recevable. Il y a à mon avis un argument de coût de financement qui est intéressant. Mais enfin, pourquoi pas.
Oui, c'est une purge en quelque sorte.
C'est une purge et comme tu le disais, d'un point de vue écologique aussi, pourquoi pas. Non, le seul truc, c'est sur YouTube. C'est-à-dire que YouTube, enfin, il y a une sorte de mémoire un peu des vidéos des années 2006, 2010, 2012, enfin les premières vidéos YouTube.
Depuis que ça existe.
Des millions de vidéos YouTube probablement publiées par des gens qui s'en souviennent plus, qui se connectent plus à ce compte-là. Et en fait, il y a plein de vidéos un peu bizarres où on découvrait tout ce qui s'est passé. Il y a une forme de mémoire de YouTube qui va disparaître aussi. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage, mais en même temps, on est au début de tout ça. On est au début d'Internet.
Ça peut pas être.
On est au début du cloud, en tout cas, finalement. Le cloud, massivement, c'est du streaming, c'est 10-15 ans, enfin, c'est une quinzaine d'années. Et si on raisonne sur 100 ans, bah, on peut s'imaginer que ce type de purge va être malheureusement indispensable parce qu'on peut pas stocker ad vitam aeternam et il faut aussi renouveler tout ça. Donc, je comprends parfaitement la décision, mais c'est vrai que du coup, il va y avoir probablement beaucoup de vidéos YouTube, de vieilles vidéos YouTube qui vont disparaître.
Voilà, rappelons, pas de panique, hein, vous avez un compte Gmail, si vous l'utilisez régulièrement, aucun souci. Et si vous avez d'autres comptes que vous utilisez rarement, la seule obligation, c'est au moins de se connecter une fois tous les 2 ans.
Exactement.
C'est pas...
Non, voilà. C'est vraiment des comptes abandonnés. Hein,
C'est des comptes abandonnés. Pour toutes les personnes qui ont disparu aussi. Hein,
parce aussi. Que,
enfin, je veux dire,
oui,
c'est C'est la vie, hein. Bah, c'est comme ça.
Depuis quasiment 20 ans.
Forcément.
Ouais.
Dans l'actu, tiens, on va parler petit bloc Apple avec deux informations. Une qui est assez impressionnante, puisque Apple, en fait, l'iPhone va pouvoir parler à votre place avec votre voix. On va évoquer ce sujet dans un instant. Mais auparavant, un truc un peu moins cool pour Apple qui est accusé, en fait, d'obsolescence programmée.
Alors, il y a deux volets de l'accusation. Donc, c'est l'association Halt à l'obsolescence programmée, donc qui milite évidemment pour la réparabilité des smartphones, qui n'aime pas beaucoup Apple parce qu'évidemment Apple c'est un circuit assez fermé et qui accuse Apple alors d'obsolescence programmée, même si ça juridiquement l'obsolescence programmée c'est vraiment le fait de programmer un système pour qu'il soit inopérant à une date, à un moment donné, ce qui dans l'histoire en fait de l'informatique n'a quasiment jamais existé. Il y a quasiment pas eu de condamnation pour obsolescence programmée, peut-être simplement pour les cartouches d'imprimante si je dis pas de bêtises, et encore j'ai un petit doute, mais l'obsolescence programmée juridiquement c'est très précis. Par contre, ce qu'il y a de nouveau et ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'ils attaquent Apple sur l'entrave à la réparation, qui est un délit qui date, si je ne dis pas de bêtises, de 2020, qui est un délit assez récent. Et en fait, leur problème, c'est que Apple empêche d'utiliser des composants qui viennent d'ailleurs, des composants tiers. C'est-à-dire si j'ai sur mon iPhone l'appareil photo qui
du coin
Exactement, l'écran, l'appareil photo, le Touch ID, enfin peu importe. Si il veut remplacer par une pièce qui n'est pas reconnue, en fait, c'est ce qu'on appelle la sérialisation, c'est-à-dire mettre un numéro de série sur chaque composant. Et c'est-à-dire que iOS reconnaît, sait que sur mon iPhone, j'ai un appareil photo qui a tel numéro de série. Et si on met un appareil photo qui a un autre numéro de série, y compris d'ailleurs si c'est le même, c'est-à-dire si c'est un appareil photo neuf qui vient d'un autre iPhone 14 Pro, c'est-à-dire qui est fait par Apple ou par ses sous-traitants, ça ne va pas fonctionner. Et donc, en fait, l'idée pour Apple, avec ces numéros de série, c'est de faire en sorte que le consommateur doive réparer ses iPhones uniquement chez Apple ou chez les réparateurs agréés qui, eux, évidemment, ont probablement... Enfin, à mon avis, c'est un outil logiciel qui permet de dire au système iOS, c'est bon, ce numéro de série, il est approuvé, je peux le changer et on peut l'installer. Et ce qui se passe, c'est que si je mets un appareil photo ou un composant qui n'est pas sérialisé selon Apple, bah, il ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si j'allume mon iPhone, le risque, c'est que j'ai un message d'erreur, que je ne puisse plus l'utiliser, ou ça peut fonctionner et après une mise à jour, ça ne fonctionnera plus. Et donc après...
On a eu plein de cas comme ça. Hein.
On a eu plein de cas comme ça.
Parce qu'aujourd'hui, quand tu pètes ton écran et que tu avais à l'époque le Touch ID, tu changeais en fait l'écran et le Touch ID parce que tout était lié.
Encore une fois, on imagine aussi que pour des raisons de sécurité...
Oui, bien sûr. C'est là où c'est tendancieux, cette histoire-là. C'est qu'on peut comprendre Apple qui protège en fait le consommateur avec des pièces, parce qu'il y a aussi beaucoup de pièces, on va dire, qui sont pas officiels.
Et voilà.
Et qui sont bas de gamme.
Imagine,
combien de fois on a vu des écrans d'iPhone de mauvaise qualité installés et tu te dis, mais c'est pas possible, quoi.
Exactement, parce que ce qu'il dit, c'est qu'Apple veut forcer les gens à changer de mobile rapidement, veut forcer les gens à payer pour réparer chez Apple.
Ça, c'est totalement faux.
Moi, je trouve que pour moi, Apple, mais c'est un truc que je dis souvent, c'est le smartphone qui dure le plus longtemps.
Mais oui.
C'est les iPhones, c'est les smartphones.
Si on y prend soin.
Donc, voilà.
À part la batterie, mais bon, ça, c'est surtout.
Mais la batterie, on peut la changer. Donc, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cet argument. En revanche, la sérialisation. Enfin, je trouve que le jugement, ce que dira la justice, ça m'intéresse parce que finalement, on est un peu entre deux. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une entrave à la réparabilité dans le sens où on ne peut pas réparer un iPhone. Évidemment qu'un iPhone peut parfaitement être réparé. Et d'ailleurs, les iPhones, en fait, comme c'est les smartphones qui durent le plus longtemps, on incite à les réparer et la réparation est plus importante chez Apple que chez une autre marque où le smartphone va durer un an parce que de toute façon, le problème de la réparation ne se posera pas. Après, donc, je peux comprendre aussi le fait de dire oui, mais il faut rendre la réparabilité plus aisée.
Oui.
C'est vrai que l'histoire de le programme...
Ouvrir la concurrence, une concurrence saine sur la réparabilité avec
peut-être
des pièces
aussi
officielles.
Baisser les prix, peut-être aussi baisser les prix. Après, est-ce qu'Apple se fait vraiment beaucoup d'argent sur le marché de la réparation ? Honnêtement, je ne sais pas. Après, l'argument d'Apple...
En tout cas, ils ne doivent pas en perdre.
Mais non, ça, je leur fais confiance pour ça. Mais après, le problème dans cette plainte, je trouve, c'est qu'on se base finalement, on pourrait comparer ça avec le marché de l'automobile, où avant, il fallait avoir une pièce d'origine, maintenant, ils doivent proposer une pièce d'occasion, une pièce tierce, etc. Sauf que sur un smartphone, c'est quand même pas tout à fait pareil. Comme tu dis, t'as un iPhone 14 Pro, t'as le réparateur du coin de la rue qui te fout un écran pourri. Enfin, j'imagine aussi qu'Apple veut que l'expérience sur ses produits soit bonne. Mmh. Et donc, je peux comprendre aussi qu'ils ferment cette possibilité de réparation dans la mesure où le smartphone reste réparable. Mais en même temps, je suis curieux de voir ce que dirait la justice, parce que je comprends aussi, je suis un peu critique vis-à-vis de cette plainte, mais en même temps, ce que font ces associations, même si parfois, moi, je les trouve un peu caricaturales, c'est aussi très utile,
oui,
parce qu'elles poussent les fabricants à s'améliorer là-dessus. Et après, sur le self-repair, le programme self-repair avec la loi pour réparer son smartphone soi-même, avec la valise de 35 kilos qu'a mis Apple, bon... C'est un peu du foutage de gueule. Donc je comprends qu'on ait envie de les titiller. Et puis, de toute façon, c'est Apple, c'est emblématique. On va s'attaquer à Apple parce que c'est le plus gros, c'est la marque la plus emblématique.
Oui.
Donc je peux comprendre. Mais ce que je trouve un peu injuste, enfin injuste, franchement, je ne me fais pas de souci pour Apple, hein, je ne vais pas pleurer pour eux. Mais ça reste quand même des smartphones. Moi, quand on me demande un smartphone durable, je dis, tu prends un iPhone, c'est le smartphone le plus durable. Mais en même temps, voilà, je peux comprendre aussi qu'on essaie de pousser Apple un peu dans ses retranchements à ce sujet-là. Surtout que s'il y a une boîte qui a les moyens de progresser là-dessus, financier, c'est quand même Apple. Donc, je suis assez curieux de voir ce que dirait la justice là-dessus. Parce qu'on précise rapidement, il y a une enquête qui a été ouverte.
Ouais.
C'est pas une plainte en l'air, il y a une enquête qui a été ouverte.
Idéalement, il faudrait que même le petit réparateur du coin puisse accéder à des pièces officielles Apple et puisse les installer parce qu'il a été formé. Mais c'est vrai que c'est
créé tout un réseau. Oui, mais du coup, s'il faisait ça, ça deviendrait un réparateur agréé. Et je pense que ça aurait un coût. Et forcément...
Oui, mais tu aurais au moins la garantie d'une réparation de qualité.
Oui, mais du coup, le prix de la réparation ne serait plus le même et on se rapprocherait d'un prix d'une réparation.
Mais malgré tout, ça coûterait peut-être moins cher qu'en allant dans un Apple Store.
Ah non, bien sûr.
Ça ouvrirait une concurrence.
Bien sûr, mais après, tu as les réparateurs agréés qui ne sont pas d'Apple Store. Mais je suis d'accord que le prix des réparations des iPhones est assez cher. Après, est-ce que c'est plus cher, beaucoup plus cher que pour le haut de gamme de Samsung ? Je ne suis pas sûr.
Voilà pour Apple. Encore une petite news très intéressante. Vous savez que bientôt, nous aurons la nouvelle version d'iOS qui commence à être un peu préparée là, dans la grande marmite des développeurs de chez Apple. On en saura plus d'ailleurs durant la WWDC.
5 juin.
Et une fonctionnalité étonnante, sans doute, va être implémentée dans cette nouvelle version d'iOS.
Oui, alors Apple qui a dévoilé quelques fonctions d'accessibilité. C'était là récemment. Et donc, c'est finalement les premières fonctions d'iOS 17 qui... annoncé le 5 juin à la WWDC et qui sera déployé en fin d'année, avec plusieurs fonctions, notamment une fonction d'affichage extrêmement simplifiée d'iOS. Alors, eux, ils présentent ça comme étant pour les personnes qui ont une déficience mentale, alors ce qui est évidemment très utile. Alors, sans vouloir évidemment mettre sur le même plan nos grands-parents, mais je pense aussi que pour certaines personnes âgées qui sont vraiment pas à l'aise avec le numérique, je pense que ça peut être utile. Moi, mon grand-père, par exemple, il avait des smartphones style Doro, etc., avec des trucs écrits en énorme. Et je trouve que effectivement, ça s'adresse
d'abord.
Alors,
tu peux déjà modifier l'interface.
On peut déjà le modifier, mais là, sur les captures d'écran, pour ceux qui nous voient à l'image, c'est extrêmement simple. On a un gros bouton pour appeler telle personne, un gros bouton pour prendre une photo. C'est vraiment, je trouve, comparable.
Et je pense qu'Apple est l'un des meilleurs dans ce domaine de l'accessibilité.
Oui, ils sont pas mal. Après,
je discute avec des personnes non voyantes. Et Apple, l'iPhone a complètement bouleversé leur vie. Il y a plein de choses qu'ils peuvent faire et qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Lire des choses, discuter avec des personnes, enfin, c'est incroyable.
Mais là, l'interface, honnêtement, je retrouve une interface à la Doro. Vraiment les trucs en énorme.
Voilà. Simplifié au maximum.
Évidemment, ce n'est pas très joli, mais enfin, pour une personne âgée qui ne voit pas très bien, et même si évidemment elle n'est pas déficiente mentale, mais qui n'est juste pas à l'aise avec les nouvelles technologies, je pense que ça peut être aussi utile. Et une autre fonction, et alors là, finalement, c'est une fonction d'intelligence artificielle, c'est la possibilité. Alors, il y a une double fonction. D'abord, la possibilité d'écrire du texte pendant un appel téléphonique et que l'iPhone lise à haute voix son texte et que l'interlocuteur entende ce texte. Donc, c'est pour les gens qui n'ont pas l'usage de la parole. Et puis, une autre fonction pour les gens qui, malheureusement, savent qu'ils vont perdre l'usage de la parole, avec certaines maladies dramatiques, la maladie de Charcot, des choses comme ça. Ici, d'ailleurs, Apple la maladie de Charcot. C'est la possibilité d'enregistrer sa voix. Il faut parler pendant 15 minutes. Il y a du texte qui s'affiche sur l'iPhone.
Donc, tu parles
et on lit le texte. On entraîne l'IA pendant 15 minutes. Et ensuite, la même fonction, c'est-à-dire qu'on tape et l'iPhone va lire ce qu'on a écrit, mais avec une voix qui synthétise sa propre voix pour parler à l'interlocuteur. On imagine d'ailleurs que c'est une fonction qui va être utilisée, à mon avis, avec laquelle on va entre guillemets aussi s'amuser, même si
elle va être détournée,
alors de façon peut-être intéressante, pas forcément pour du mal.
Tu pourras peut-être te faire passer pour quelqu'un, parce que finalement, je te pique ton iPhone, tu avais implémenté cette fonctionnalité. Je peux passer un coup de fil en faisant croire que c'est toi. Alors, après, il faut voir si effectivement c'est tellement parfait.
Voilà. Pour le moment, alors des IA qui imitent des voix, ça existe déjà. Il y a un côté encore un peu métallique, tu vois, quand on l'entend. Mais bon, ça va s'améliorer. Je suis assez curieux de voir comment ça va prendre forme. Est-ce que ce sera vraiment hyper réaliste ou pas? En tout cas, évidemment, le but premier, c'est pour des gens qui ont malheureusement des maladies graves qui font qu'ils vont perdre l'usage de la parole. Mais je trouve que c'est une option, une fonction qui mérite d'être exploitée différemment, avec des risques, comme tu le dis, mais peut-être avec d'autres usages intéressants. Moi, par exemple, un truc tout bête, moi, souvent, on m'envoie des messages vocaux ou des enregistrements vocaux. Je ne peux pas répondre.
Oui, parce que tu es en réunion.
En vocal, alors je réponds évidemment par le texte, mais peut-être que certaines personnes préféreront répondre avec la voix. Donc, j'en sais rien, les utilisateurs, il y a des millions de gens qui vont utiliser ça, on trouvera probablement des idées de l'exploiter. Mais en tout cas, voilà, il faut quand même rappeler, le but premier, c'est de s'adresser à des personnes qui souffrent d'une pathologie et qui vont perdre l'usage de la voix. Donc voilà, tout ce volet accessibilité d'Apple, comme tu dis, qui est assez développé chez Apple, parce qu'encore une fois, ils ont tellement de moyens qu'ils peuvent se permettre de mettre probablement 15 ingénieurs pendant 2 ans qui vont développer ce type de fonction.
Mais c'est aussi, j'allais dire, leur fond de commerce. C'est pas très beau de dire ça, mais je pense qu'il y a des millions et des millions de gens qui sont dans des situations de handicap et qui vont peut-être préférer choisir un iPhone qu'un téléphone Android.
Après, on va pas se mentir, c'est évidemment une fois, enfin, ce sont des parts de marché
à l'échelle mondiale, c'est
supplémentaires. Des gens qui ont des handicaps, si ça représente 5% de la population et que on est 15 fois meilleur que la concurrence, on est
c'est
quasiment
réglé.
Sûr d'avoir ces 5% en plus.
C'est réglé.
Ce qui représente... Non, mais évidemment, il faut le rappeler, c'est évidemment aussi des parts de marché, même si la démarche doit être évidemment probablement très sincère, il n'y a pas de problème, mais évidemment qu'il y a un intérêt commercial derrière.
Voilà pour l'actualité de cette semaine. Et évidemment, on a parlé de cette WWDC, c'est très bientôt, puisque c'est le 5 juin, ce sera à suivre sur la chaîne Tech & Co, sur tous nos écrans.
On aura place, évidemment.
Évidemment, voilà, on aura le résumé de tout ce qui va être annoncé, peut-être ce nouveau masque de réalité mixte d'Apple qu'on attend un peu comme le Messie. Est-ce qu'il sera là, est-ce qu'il sera pas là, enfin bref, voilà. On commentera tout ça avec Raphaël. Merci beaucoup Raphaël.
Merci François.
Passé par le plateau de quoi je me mail, Raphaël, que vous pouvez lire donc sur le site Tech & Co. Et vous restez avec nous dans un instant, deuxième partie de quoi je me mêle. On va plonger dans un truc incroyable, c'est la règle du cuivre. Pendant des années, nos communications téléphoniques étaient faites par notre bonne vieille prise téléphonique qui elle-même était connectée au cuivre. Tout ça est en train d'être remplacé par la fibre. On en parle avec Lionel Paris qui a enquêté sur ce sujet. A tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Deuxième partie de ce De quoi je me mêle avec un sujet important qui va changer notre quotidien, qui est en train de le changer d'ailleurs, c'est la fin du réseau cuivre. Ce réseau qui, depuis toujours, nous permet de téléphoner et d'avoir en fait la connexion ADSL, etc. Vous savez que le progrès technologique aidant et la fibre arrivant, bah, tout ça est en train de disparaître. On va faire le point avec Lionel Paris qui est là. Salut Lionel.
Bonjour François.
Heureux de te retrouver. Tu as enquêté sur ce sujet qui est passionnant. Oui. Parce que c'est vrai qu'on est à la fin d'une ère technique, technologique.
C'est ça.
On est en train de fermer le chapitre du cuivre, de la connexion cuivre.
C'est ça. Donc Orange a annoncé très officiellement que la fermeture du réseau cuivre était prévue d'ici fin 2030. Donc c'est-à-dire qu'on a vraiment une grosse page de l'histoire des télécoms qui va se tourner avec ce mouvement. Et bien évidemment, on ferme un réseau.
Mais pour en ouvrir un autre, bien sûr.
On en ouvre un autre. C'est en fait, il y a finalement, quand tu réfléchis, on a deux chantiers colossaux qui sont en simultané. Tu as d'un côté la fermeture de ce réseau cuivre. Donc, on supprime littéralement tous ces câbles qui ont été tirés. Et
oui,
ça date, les premiers dataient des années 50. Ça a été massivement déployé dans les années 70. Et donc, ce fameux réseau historique, qui s'appelle aussi le RTC, donc le réseau téléphonique commuté, qui donc va disparaître au profit d'une technologie qui est celle qu'on connaît aujourd'hui, qui est la fibre, et qui est donc qui est bien plus puissante et répond aux besoins actuels auxquels le RTC avait du mal à répondre, en fait.
Voilà, tout ça, évidemment, s'inscrit dans le plan très haut débit du gouvernement, avec des investissements massifs pour tirer cette fibre optique. Alors, soit, idéalement, la mettre sous terre, ou alors l'accrocher, justement, sur des poteaux téléphoniques. Et ça va très vite. En fait, le déploiement avance à pas de géant. Aujourd'hui, il y a plus de gens qui se connectent par Internet via la fibre que par l'ADSL. Parce que ce qui est intéressant, c'est que l'ADSL, cette connexion haut débit, la première connexion haut débit qu'on a eue à la maison, c'était par le réseau cuivre.
C'est ça. Donc c'est arrivé. D'ailleurs, ce réseau cuivre, il a vu passer un nombre de technologies et un nombre de produits qui sont très importants.
Tu peux nous faire une espèce de petite
séquence histoire.
Séquence nostalgie,
voilà.
Avec Lionel.
Qu'est-ce qui est passé sur ce réseau cuivre? La première application qu'on connaît tous, bien évidemment, c'est la téléphonie fixe. Et là, c'est drôle parce que depuis les origines et le début de la téléphonie, donc là, attention, on va parler de 1880, ça a toujours fonctionné sur une paire de cuivre. Même les tout premiers modèles. Donc, le besoin principal et à quoi a répondu le cuivre à l'origine, c'était bien la partie téléphonie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu arriver après le développement de la téléphonie? Quelque chose qu'on a oublié aujourd'hui, tu vois, quand j'ai préparé le sujet, je dis, oui, c'est vrai, tiens, le télécopieur.
Le fax.
Ouais. Donc ça a été la deuxième grosse évolution. Donc, connu sous le nom de téléfax, fax, facsimilé, et ça a vraiment démarré dans les années 76.
C'est incroyable.
Donc ça, on oublie, mais effectivement...
Mais à l'époque, c'était génial, quoi. T'imagines, t'avais un appareil qui sortait du papier...
Qui
t'envoyait des informations
via du papier, toutes les entreprises l'utilisaient. Alors ça a explosé.
Il y a des gens qui attendaient des fax pendant des heures, tu vois.
Moi, je me souviens d'une époque où on attendait les commandes. Au début de ma carrière, on attendait les commandes sur le fax.
C'était la commande officielle qui arrivait par fax.
Qui arrivait par fax, c'était un document officiel. Et donc ensuite, tu as eu l'ère du télécopieur sur ce réseau cuivre. Ensuite, tu as eu l'ère du Minitel.
Le Minitel.
Bien sûr. Donc, est-ce que tu sais ce que ça veut dire Minitel? Tu vois, je suis tombé dessus hier aussi en préparant le sujet. L'abréviation de Minitel.
Aucune idée. Franchement, je ne sais pas.
Écoute ça. Médium interactif par numérisation d'informations téléphoniques.
My God.
Donc ouais, c'est voilà.
Heureusement qu'ils ont réussi à le réduire.
Oui, alors bon, nous, en tant qu'utilisateurs, on se souvient plus du 3615. Bon, c'est peut-être que les gens qui nous écoutent, non, mais j'ai même jamais entendu parler. Enfin bon, bref.
Et oui.
Voilà.
Si vous êtes avec nous à la télé, voilà, on voit les images du Minitel qui était une invention française, rappelons-le.
Alors, c'est une invention française. C'est quand même le précurseur d'Internet, quand on réfléchit. Autant le télécopieur, c'est le précurseur de l'email. autant Minitel, c'est vraiment, on retrouve l'usage de cette information, le côté alors instantané à l'époque, bon, on le voit, hein, fallait attendre un petit peu que ça défile.
Ouais, mais c'était quand même révolutionnaire. Tu peux, t'avais des annuaires, il y avait des enfin, il y avait plein de trucs qui étaient gratuits.
Il y avait de l'information qui était accessible, etc. Bon, on se souvient tous du 3615 Villa, bien évidemment.
Les messageries
rose, c'était le gros démarrage.
C'était le gros démarrage.
C'est quand même un produit qui a œuvré entre 1980 et 2012. Donc, il a quand même eu une durée de vie
30 ans.
Qui a été assez longue. Et je le rappelle, c'est le premier modem.
Mais
parce
oui.
que bien évidemment, à l'époque, on n'utilisait pas l'ordinateur pour faire ça. On utilisait le Minitel qui était un produit qui était à part. Et donc, c'est là où on a intégré le premier modem. Alors, attention en termes de débit, on rigole pas. On parle de 4800 bits.
Et oui, sans vous dire que là, ça va pas très vite.
Hein. Voilà, d'ailleurs, on le voit à l'écran. C'est vrai que ça s'affichait. Hein, ça
ouais, ressemble... mais à l'époque, t'avais quoi? T'avais que des lignes de phrases qui s'affichaient.
C'était cool.
T'avais pas de graphisme, pas de vidéo.
Non,
voilà, on n'imaginait même pas. Voilà.
Alors, il y a eu plusieurs générations. Ça a évolué, tu te doutes bien, sur cette période. Et on a fini avec des modems à 9600 bits. Donc, doublé le débit.
C'est la fiesta.
C'est la... Ouais, voilà.
Mais moi, je me souviens, il y avait même eu des Minitel en couleur qui étaient arrivés.
Bien sûr, mais il y a eu. Il y a eu tout, enfin, on pourrait en faire presque un sujet entier.
Ouais.
Il y a eu toute une itération de produits, ça a bien évolué. Et oui, c'était une belle. Et on était à l'époque, vraiment, la France était en amont et en avance.
Et après, l'ère d'Internet, milieu des années 90, on commence à parler du réseau Internet. Il n'y avait pas encore la DSL.
Oh non, on en est loin là.
On branchait sur notre prise téléphonique un modem RCC.
C'est ça. Alors je rappelle pour ceux qui nous voient, je suis désolé, j'ai ramené ça. C'était un de mes derniers vestiges de ma maison. Donc une prise en T, hein, donc c'est la bonne vieille prise téléphonique qu'on utilisait à l'époque. Donc là, c'est l'époque du RTC. Donc on a un modem qui fait son apparition. Il est interne dans l'ordinateur, mais plus souvent externe. Tu te souviens peut-être d'une marque qui a marqué ces années-là, en tout cas ça m'a marqué moi, qui s'appelait US Robotics.
Mais bien sûr, c'était top, c'était les meilleurs dans ce domaine-là.
C'était les petits modems externes, c'était compact, ça fonctionnait relativement bien. Et donc à cette époque-là, attention, il faut choisir. Quand on fait fonctionner son modem, on ne peut plus utiliser la ligne téléphonique.
On, je le rappelle, aujourd'hui, on était en occupé.
La ligne s'en est occupée quand on utilisait son modem.
En effet.
Donc, en 94, donc là on a quand même fait un bond, on parle de débit de 33 kilobits. Donc tu vois déjà, on a fait un bond générationnel avec notre
Minitel. Parce que c'est la même technologie finalement, sauf que ça va plus vite.
Exactement, ça utilise le même réseau, on est toujours sur nos prises en T, on est toujours sur nos câbles en cuivre, ça ne change pas. Et en 95, on voit apparaître l'ultime évolution de cette technologie, et là on passe à des débits de 56K, et c'est vraiment ça qui a fait exploser le début d'Internet, et ça devient un petit peu, si tu veux, la norme.
Ouais.
Je rappelle qu'à l'époque, on est facturé à la minute.
Ouais. Après, il y avait des forfaits limités à un moment, mais je crois que Club Internet avait fait un truc, je ne sais pas si tu te souviens.
Si, oui, mais c'est des marques qui n'existent plus, tout ça. Oui, c'est très bien de se rappeler tout ça. Donc tout ça tourne, on est encore une fois sur le même réseau cuivre et sur le même RTC. En parallèle à ça, tu as eu le réseau RNIS qui s'est développé.
Oui, qui était pour les pros.
Qui était plus pour le côté entreprise, tout à fait.
En radio, on s'en servait beaucoup à l'époque. Hein. Ça permettait de faire des duplex avec une super qualité malgré tout.
Bien sûr, puisque là, c'était le seul réseau à l'époque qui te permettait d'atteindre 2 mégabits. C'est-à-dire qu'on allait de 64 à 2 mégs et c'était du simultané. Tu avais plusieurs flux.
Pas de latence.
Donc, c'était, pour l'époque, c'était, là, on est dans les courants années 90, c'était quand même une vraie révolution. Il y avait une offre pro qui tenait la route.
Ouais.
Et puis, l'évolution faisant, on arrive au DSL.
Ouais.
Proche de ce qu'on se connaît aujourd'hui. Donc là, nous sommes en 99. C'est le début.
Et tu sais, je m'en souviens très bien parce que c'était l'époque où je m'étais offert mon premier modem à DSL.
Est-ce que c'était pas la Raymond?
Évidemment.
C'était la Raymond.
Évidemment, c'était Wanadoo. c'était la Raymond verte, horrible.
C'est ça.
Qui a bouleversé en fait
L'usage
quotidien. Moi, j'étais passé à 512 kilobits, quoi.
C'est ça.
512 kilobits à l'époque.
C'était
incroyable.
Absolument énorme.
C'était le roi du monde.
T'imagines que cette révolution, elle a démarré en 99 et elle est encore utilisée aujourd'hui 23 ans après.
24 presque.
Presque 24, puisque de toute façon, et même un peu plus, parce que ça sera coupé définitivement en 2030. Mais grosso modo, là, ça a été une révolution technologique, puisque pour la première fois, on a eu les trois usages. Le triple play n'existait pas ou peu avant. En RTC, tu ne pouvais pas. Mmh. Donc là, on a téléphonie, on a Internet, on a vidéo pour la première fois. On passe sur des abonnements qui sont sur des tarifs mensuels, qui sont fixes. On n'a plus cette notion de numérotation et de timing qui était liée au réseau téléphonique, puisqu'on faisait de la téléphonie à l'époque. Oui. Et tu as vu passer des énormes technologies. Tu as eu trois générations technologiques. Tu as eu l'ADSL avec toutes les itérations, le VDSL, SDSL, etc. On arrive à 20 mégas.
Aujourd'hui.
Ça y est, là, on est au bout de ce que peut faire cette techno. Et donc, je rappelle que le réseau RTC, donc pour passer des appels téléphoniques, il a été coupé. C'est-à-dire que depuis novembre 2018, on ne peut plus souscrire une ligne téléphonique qu'il va utiliser pour brancher un téléphone dessus. Cette partie-là a déjà été coupée. Et donc maintenant, on en arrive à la seconde partie, c'est la fermeture de ce bon vieux réseau cuivre.
Voilà, qui a apporté plein de bons et loyaux services, mais il faut tourner la page maintenant technologique, puisque tout ça est remplacé par la fibre.
C'est ça.
On le voit aujourd'hui, si vous souscrivez à un abonnement, on vous propose en priorité la fibre, et c'est tant mieux, parce que évidemment, c'est la meilleure technologie disponible.
C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fibre répond en fait à la demande et à l'usage qu'on a aujourd'hui. Il n'y a pas de problématique de débit. On le sait très bien avec la fibre. On va aller au-dessus, largement au-dessus d'un giga. La DSL ne répond plus à cette demande ou via le cuivre en fait. Mmh. Et on ne va surtout pas conserver de réseau. C'est-à-dire qu'on ne va pas conserver un réseau qui est ancien pour le maintenir, qui ne servirait pas à grand-chose et qui coûte cher en maintenance. Le cuivre, il souffre de l'humidité. Il est à l'origine de coupures. Mmh. Il y a le phénomène du vol.
Ouais.
Qui est pas du tout une légende urbaine, mais c'est réel.
C'est pas anodin.
Le cuivre est devenu un métal précieux. C'est 8 000 € la tonne et ça se revend sur les marchés parallèles à peu près à 4 000 €. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière en Bretagne, il y a eu 350 000 interventions techniques de maintenance sur ce réseau qui est vieillissant et qui ne répond plus à la demande.
Donc ça coûte beaucoup d'argent à Orange, qui est l'opérateur officiel de ce réseau cuivre, rappelons-le.
Qui est l'opérateur et le propriétaire.
Et le propriétaire,
au passage, on l'oublie parce qu'il loue aux autres prestataires un accès à ce réseau. Et donc, Orange, en concertation avec l'ARCEP, va donc retirer et a déjà démarré la fermeture de ce réseau.
Donc, ça veut dire que petit à petit, il y a des zones, des plaques
qui vont
s'éteindre en cuivre parce que la fibre optique sera tellement bien implantée que... on n'aura plus besoin de cuivre. Mais ça va poser des problèmes parce que les personnes âgées qui ont des abonnements cuivre, etc., ils n'ont pas envie d'avoir une connexion Internet parce qu'ils s'en foutent, ils veulent téléphone, etc. Pour eux, ça va être un changement.
C'est un changement qui est assez notable parce que tous ces équipements que j'ai ramenés aujourd'hui, cette prise historique, et ça, c'est un peu rentré dans les mœurs. Il y a quand même un tiers de la population aujourd'hui qui utilise, au dernier chiffre de l'ARCEP, on est encore sur un tiers qui utilise la DSL.
Ah oui.
Donc, ce n'est pas anodin, déjà, en termes de population. Il y a deux étapes. Tu as finalement l'arrêt de la commercialisation, qui, elle, est planifiée, si tu veux, pour fin 2025 par Orange au niveau national. Et le deuxième step, c'est la fermeture du réseau. C'est-à-dire, c'est le moment où le réseau sera éteint.
Non, au niveau national.
Au niveau national. Là, ça sera terminé. Et donc là, ce qu'on regarde comme date, c'est fin 2030. Maintenant, en attendant ces échéances, tu te doutes bien qu'ils ont déjà démarré. Donc, il y a eu tout un programme d'expérimentation qui a déjà... on a, depuis 2021, tu as 7 villes en France qui ont été expérimentées avec une fermeture totale du réseau. Tu en as deux que je vais citer qui sont dans les Yvelines. La première fermeture réseau cuivre nationale, elle a eu lieu le 31 mars 2021. C'était la commune de Levis-Saint-Nom, 1700 habitants. Tu te doutes bien, on démarre très bas. Il y en a une un petit peu plus majeure qui s'est finie le mois dernier, fin mars, 31 mars 2023. C'est Voisins le Bretonneux, aussi dans les Yvelines. Je te rappelle, les Yvelines, c'est un département qui est en Ile-de-France, mais qui est extrêmement étendu et surtout qui n'est pas très urbain, qui est plutôt très rural. Donc là, on est sur 11 000 habitations, 5 700 logements. Pour l'instant, ces deux expérimentations se sont très bien passées.
Et donc, parce qu'on peut imaginer que les gens n'utilisaient plus le cuivre dans ces zones-là.
Alors, il y avait une partie de la population qui ne l'utilisait plus. Maintenant, ils ont fibré intégralement avant de switcher. Mais effectivement, il a fallu migrer les gens. Bien évidemment.
Faire du porte-à-porte, quoi. Parce que dire.
Orange a été. Ce que je lisais, en fait, dans les rapports, parce que les maires communiquent dessus, bien évidemment, Orange a été très présent et a vraiment accompagné cette démarche.
Parce qu'il ne faut pas aussi que ça leur cause des problèmes de communication.
Ce que tu disais, il y a une frange de la population qui est réfractaire un petit peu, pas forcément par rapport à la technologie, mais juste le fait de devoir changer, en fait, c'est toujours un
point. Lionel, ce qui est intéressant, c'est qu'on va peut-être faire un point sur ce qui va changer pour nous, ce qui ne va pas changer.
Parce c'est que ça.
Ça, c'est intéressant.
C'est ça.
Par exemple, on est abonné à la fibre, on a notre téléphone qui est... alors, si vous avez encore un téléphone fixe, moi, perso, ma box, enfin, je crois qu'on a tous notre mobile. Moi, j'ai plus de téléphone fixe. À la
moi, j'utilise encore, mais
j'utilise encore, mais bon, il y en a. Hein, voilà. On a notre fixe qui est branché sur la box.
Oui.
Qu'est-ce qui va changer pour nous ?
Si tu es abonné à la fibre et que ton téléphone fixe, si tu en utilises un, est branché physiquement sur ta box, pour toi, ça ne va rien changer. C'est-à-dire que cette coupure va arriver, de toute façon.
Ouais, ouais. Mais comme tu n'utilises plus déjà le cuivre...
Mais comme tu es déjà passé sur de la fibre...
Il n'y a rien qui change.
Il n'y a rien qui change. La seule chose...
Mon téléphone fixe va continuer de marcher.
Bah oui, puisque de toute manière, il est déjà passé sur le réseau IP, il utilise déjà la fibre. La seule chose que moi, je peux proposer, c'est aucune utilité de garder ces prises au mur. Puisqu'elles ne servent à rien, elles ne serviront de toute façon plus à rien, il n'y a plus rien à l'autre bout du cuivre.
Donc on peut enlever le cuivre.
Donc on peut tout à fait enlever ces prises T qui ne servent à rien dans le domicile et les remplacer, parce qu'elles ont exactement le même emplacement, par une prise électrique, par exemple.
Oui, mais encore faut-il que le réseau électrique passe dedans.
Alors généralement, tu as une prise, t'avais généralement autour de ta prise
téléphonique.
Ah, à côté,
t'as toujours une prise électrique.
D'accord. Donc tu te rebranches dessus.
Oui, dans
claque.
La boulotte, t'as les deux. En
voilà,
fait.
Okay. Tu remets un bout de câble et tu repars. Tu peux enlever tous les câbles. Dans les maisons ou les appartements où les gens avaient passé des câbles téléphoniques pour aller d'une pièce à l'autre parce que c'était pas dans les murs, tout ça on peut enlever, ça ne sert plus à rien, ce cuivre ne sera plus utilisé, ça ne sert plus à rien. Donc voilà. Mais c'est, je dirais qu'on est dans le phénomène de la bricole.
Alors, autre cas,
oui.
On a notre téléphone ou notre box qui est branché sur la prise téléphonique du mur.
Oui.
Là, attention.
Voilà, donc c'est là où il y a le plus de manipulation possible. Cette prise est encore en fonctionnement, sa prise en T. On a toujours, forcément, puisqu'on utilise la DSL, cette prise qui est reliée sur notre modem, et on a éventuellement, je schématise, mais je montre, mais c'est important pour certaines personnes, on a le téléphone qui est de l'autre côté, qui est branché
côté,
dessus.
Bien sûr.
C'était ça l'ancien système.
Et là, ça veut dire qu'on est en ADSL.
Ça veut dire qu'on est en ADSL,
donc,
ou une variante de la DSL, ou en VDSL, ou
en VDSL,
une des variantes.
Voilà, si on a de la chance, mais on est sur le réseau cuivre.
On est sur le réseau cuivre, on est toujours... Là, ça concerne 33% de la population aujourd'hui, hein. je déprise. Donc c'est là...
Là, ça va changer.
Là, tout va changer. On va voir arriver dans le domicile une jolie petite prise, je ne sais pas si on arrive à la voir. Voilà, ça c'est un câble de fibre. Donc là, ce qui
voilà,
va se passer...
Voilà, mets-toi la puce vers toi. Voilà,
hop là,
comme ça.
Je ne sais pas
là,
si vous la voyez bien. Voilà. Voici le câble de fibre qui va venir remplacer l'unique câble qui va remplacer un petit peu tout ce que je viens de montrer et qui va rentrer directement dans votre box. Donc là, vous conservez votre numéro de téléphone. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On va juste changer d'abonnement. Il y aura l'ajout d'une prise optique qui sera fixée au mur, puisque ça... C'est l'arrivée de la fibre dans le domicile. Tu auras derrière un boîtier fibre qui va te permettre de convertir ce fameux câble fibre en du réseau en Ethernet. Et tu auras bien sûr l'ajout d'une box. Tu vas te trouver avec deux types de box. Ou tu souhaites avoir du téléphone uniquement, ce qui pourrait être étonnant. Mais l'offre existe aujourd'hui chez Orange. Et tu auras ce qu'on appelle une genre de box téléphonie où tu pourras connecter ton téléphone dessus. On n'oublie pas que ces câbles qui connectent le téléphone, eux, ne changent pas. Il n'y a pas d'évolution de ce côté-là.
Oui, ils sont toujours l'interface pour se connecter son téléphone.
Ce câble-là ne changera pas, c'est toujours du cuivre et c'est toujours on le conserve. Par contre, tu peux avoir aussi une box qui va te faire et à la fois Internet et la téléphonie. Et là, c'est la même logique. On aura une prise optique fixée au mur, l'ajout d'un boîtier fibre et la box traditionnelle.
Lionel, ça ne va pas s'arrêter comme ça d'un coup, d'un seul. Parce que là, on fait peut-être un peu peur à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Mais si vous avez encore une prise ADSL et vous avez encore Internet ADSL et vous ragez peut-être parce que justement,
parce
ça,
que ça
vite,
marche, va passer vite.
Tout ça sera une bonne nouvelle quand la fibre arrivera chez
c'est
vous.
Ça, exactement.
Et dans un second temps, on coupera le cuivre,
voilà,
mais voilà, Orange ne va pas faire ça n'importe comment. Hein.
Il y a un déploiement au niveau national, ça se fait par lot, c'est-à-dire que tu as plusieurs lots qui sont validés entre Orange et l'Arcep de l'autre côté, et ce n'est pas finalement au niveau des départements que ça se passe, ni au niveau des régions, mais c'est plutôt au niveau de ce qu'on appelle des plaques, c'est-à-dire Orange fait bouger des ensembles d'équipements sur des régions qui concernent plusieurs villes. Le lot 1 qui a démarré en décembre, c'était 162 communes. Pour te donner un ordre d'idée, qui sont en train d'être migrés. Et tu as là-dedans 62 villes dans le Nord. Tu as 19 villes dans les Ardennes, 17 dans l'Aisne, etc. Et donc tout ça, ça veut 212 000 locaux qui vont être switchés dans 21 départements. Eux, ils seront switchés d'ici fin 2024. Donc, bien évidemment, les gens sont prévenus ou par les opérateurs ou par Orange indirectement. Et en avril 2023, ce qui est très important, ce qui vient de se passer maintenant, c'est qu'on vient de faire la première expérimentation en zone très dense. Donc là, on parle maintenant de villes comme la commune de Vannes dans le 92. On parle de villes de l'hypercentre de Rennes en Bretagne dans le 35. Donc là, on passe à un autre niveau,
à une autre échelle
de switch. On est sur des zones très très grandes. Et là, on est sur un planning de fermeture pour ces zones-là qui est au 31 mars 2024, l'arrêt de la commercialisation, et fin mars 2025, fermeture du réseau. Et ça va avancer comme ça.
Voilà, jusqu'en 2030.
Jusqu'en 2030.
Ou en théorie.
Où là, normalement, en théorie,
tout le territoire sera coupé.
Nous n'aurons plus de cuivre et nous fonctionnerons uniquement sur de la fibre.
Et bien voilà. Intéressant de revenir sur la fin de cette technologie qui nous a rendu évidemment d'innombrables services. Mais voilà, la fibre est arrivée et ça a tout changé.
Exactement.
Merci beaucoup, Lionel.
Mais merci à toi.
Cette histoire et toutes tes petites astuces, tes petits tips sur ce sujet. Lionel Paris, donc. On se retrouve évidemment très vite pour parler d'autres sujets avec Lionel. C'est de quoi je me mêle et terminé.
Merci.
Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Encore une fois, merci aussi de nous écouter, de nous regarder. Et on sera là le week-end prochain. Salut à tous.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.